VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 11 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo refuse encore de comparaître à son procès.
Yahya Jammé, au pouvoir depuis 1994 à la suite d'un coup d'État, est de nouveau officiellement candidat à sa propre succession en Gambie.
En Afrique du Sud, pas de surprise, le président Zuma a échappé une fois encore à une motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition.
En Égypte, gèle des avoirs financiers d'une ONG locale qui s'occupe des victimes de la torture.
Ici à Washington, visite hier de Donald Trump, le président élu, à la Maison-Blanche et au Congrès.
N'oubliez pas la page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a de nouveau refusé hier de comparaître à son procès pour crimes contre l'humanité. Elle proteste contre la non-comparution comme témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes. Éric Manirakiza.
C'est la deuxième fois que Mme Simone Gbagbo refuse de venir à son procès depuis son ouverture le 31 mai. Le juge Boaki Kouadjo a dû suspendre l'audience. Il lui a transmis une sommation à comparaître le 16 novembre et à défaut, pourrait la faire venir de force. Madame Gbagbo avait déjà refusé de venir le 25 octobre dernier. Son procès a déjà été bloqué lundi pendant plusieurs heures. La défense veut entendre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Kouadio Aoussou, ancien premier ministre et bien d'autres personnalités ivoiriennes. Simone Gbagbo ne peut pas défier la justice, s'est insurgé Issiaka Diaby, président du collectif des victimes. Madame Gbagbo est accusée de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts. Elle purge déjà une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État.
En Gambie, le président Yahya Jammé, qui brigue un cinquième mandat, a déposé hier son dossier de candidature pour la présidentielle de décembre. Comme à son habitude, il est resté égal à lui-même. Explication de Nani Talani.
C'était hier le dernier jour pour déposer son dossier de candidature. Yahya Jammé, 51 ans, s'est acquitté de la tâche devant la commission électorale indépendante à Banjul. À sa sortie, il a déclaré « Peu importe ce que les gens disent de moi, je n'en suis pas touché ». Il a évoqué une plateforme de projet pour une éducation gratuite, des soins de santé pour tous et la responsabilisation des femmes. La campagne doit débuter le 16 novembre. Ce scrutin à un seul tour se tiendra le 1er décembre. Monsieur Jammé affrontera Adama Barrow, soutenu par une coalition de l'opposition, et Mama Kondé, un transfuge du parti au pouvoir qui a créé récemment son parti. Parvenu au pouvoir par un coup d'État en 1994, Yahya Jammé a été élu une première fois en 1996, puis constamment réélu. Son régime est accusé de disparition forcée, de harcèlement de la presse et des opposants, des accusations qu'il a régulièrement rejetées.
Au Ghana, Hassan Ayariga, dont la candidature à la présidence a été rejetée à deux reprises, a demandé à la présidente de la Commission électorale nationale de démissionner avant les élections générales du mois prochain. Si Charlotte Osei refuse, a averti le candidat du parti d'opposition All People's Congress, les élections présidentielles, législatives et locales du 7 décembre ne seront plus considérées comme transparentes. Les groupes de la société civile et d'autres membres de la Commission électorale ont pour leur part défendu l'impartialité de Mme Osei.
Le président sud-africain Jacob Zuma a échappé hier, sans surprise, à une nouvelle motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition, malgré les critiques croissantes suscitées, y compris dans son propre camp, par les affaires de corruption qui le visent. Les précisions de John Linden.
Au terme d'une séance électrique, le Congrès national africain de M. Zuma, qui dispose d'une majorité absolue parmi les députés, a fait barrage au texte visant son chef, qui a été rejeté par 214 voix contre 126. À la tribune du Parlement, le chef de l'Alliance démocratique a ouvert les débats en lançant une violente diatribe contre le président. « Aujourd'hui, nous pouvons choisir la corruption ou nous pouvons choisir l'avenir de ce pays. Nous pouvons choisir de laisser un homme s'enrichir ou aider des millions de gens à se libérer de la pauvreté, a déclaré Munzi Maiman. Le texte rejeté jeudi a pour origine la publication la semaine dernière d'un rapport de la médiatrice de la République qui a illustré l'influence exercée sur le gouvernement par la richissime famille Gupta avec la complicité du président.
Il faut ajouter que la ministre ANC, Nomvula Mokonyane, a soutenu que la motion ne visait qu'une chose, détourner l'attention de son parti de défis tels que la pauvreté, le chômage et l'inégalité.
En Égypte, une ONG locale s'occupant des victimes de torture a annoncé hier le gel de ses avoirs financiers, et ce au moment où le pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi est accusé de réprimer les organisations de la société civile. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme accusent régulièrement les autorités égyptiennes de centaines de disparitions forcées, de détentions illégales et d'actes de torture et autres violences en détention. Réagissant à l'annonce, Amnesty International a condamné dans un communiqué un coup cruel pour les droits de l'homme en Égypte.
Au Soudan du Sud, quelques 20 personnes ont été tuées et au moins 10 autres blessées mercredi et jeudi dans une nouvelle flambée de violence à Kaya, état de Yei River et Yambo, et dans l'ex-état du Haut-Nil. Les forces gouvernementales et celles de l'opposition rejettent les unes sur les autres la responsabilité de la reprise des hostilités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le prochain président des États-Unis, Donald Trump, a rencontré hier au Capitole les chefs républicains du Congrès pour planifier le début de son mandat, ses priorités, la santé et l'immigration. Auparavant, M. Trump avait été reçu par le président Barack Obama à la Maison-Blanche.
Des centaines de personnes, en grande partie des étudiants, ont de nouveau manifesté à travers les États-Unis hier pour exprimer leur colère face à l'élection de Donald Trump à la présidence. À Los Angeles, en Californie, des centaines d'étudiants ont défilé sur le campus de l'université UCLA et plus au nord, à San Francisco, quelques 1000 jeunes, surtout des lycéens, ont défilé marchant du quartier financier vers la mairie en scandant « ce n'est pas mon président » et bloquant la circulation. Protestations également dans d'autres villes californiennes ainsi qu'à New York, Baltimore et dans certaines parties du Texas. Ces manifestants disent protester contre les vues racistes, anti-immigration, sexistes et anti-musulmanes de M. Trump selon eux.
Le consulat allemand de Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, a été visé hier soir par un attentat meurtrier de très forte puissance au camion suicide revendiqué par les talibans. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources concordantes. L'explosion, qui a été entendue dans toute la ville, a fait au moins 2 morts et 32 blessés admis à l'hôpital local, selon un premier bilan fourni par le médecin-chef de l'établissement, le docteur Nour Mohammad. Le porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, a revendiqué l'opération Martyr dans un communiqué, affirmant qu'elle a été conduite en représailles aux frappes aériennes américaines qui ont tué au moins 32 civils à Kunduz, dans le Nord, le 3 novembre dernier. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho. Nanit Talani.
La société kényane Sanergy commercialise un engrain issu d'excréments humains, un cercle vertueux qui crée au passage des emplois dans les bidonvilles de Nairobi où l'absence de sanitaires impacte la mortalité et l'activité économique. Ce produit est supposé augmenter les rendements des agriculteurs de 30% par rapport aux fertilisants classiques. L'engrais est bio, totalement vierge d'agents pathogènes. Le Fonds monétaire international doit se prononcer sur un prêt de 12 milliards de dollars, soit 10,8 milliards d'euros demandés par l'Égypte pour remettre à flot une économie malmenée depuis la révolution de 2011 contre l'ex-président Hosni Moubarak. La condition requise par le FMI, à savoir l'obtention d'un financement de 6 milliards de dollars supplémentaires auprès d'autres créditeurs, a été remplie. Hier, l'Égypte a obtenu un financement de 2 milliards de dollars, soit 1,8 milliard d'euros, d'un consortium de banques internationales. En parallèle, Le ministère des Finances a indiqué avoir émis des obligations souveraines d'une valeur de 4 milliards de dollars cotées à la bourse irlandaise, ce qui fait donc un total de 6 milliards de dollars. EDF, le géant de l'électricité, s'est allié avec une société californienne pour vendre des kits solaires en Côte d'Ivoire où il vise 1,5 million de clients. Pour un kit basique, le client déboursera 5 000 francs CFA pour rembourser l'installation qui lui appartiendra au bout de 3 ans. La région de Soubré à l'ouest sera prioritaire dans un premier temps. Puis les ventes s'étendront à moyen terme à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Pas de surprise au Burkina avec la réélection du président de la Fédération de football.
Oui, le colonel Sita Sangaré, en poste depuis 2012, a été réélu pour un deuxième et dernier mandat de 4 ans. Élection qui s'est déroulée hier lors de l'Assemblée générale de la FBF à Koudougou. Sita Sangaré a obtenu 221 voix contre 75 à Bertrand Kabore, ancien secrétaire général de la fédération qui avait démissionné pour se porter candidat à la présidence. On rappelle que le Burkina Faso, finaliste de la CAN 2013, est qualifié pour l'édition 2017 qui se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon.
Éliminatoires pour le Mondial 2018, on joue en Afrique dès aujourd'hui.
Les 20 sélections africaines en piste pour espérer décrocher un billet pour la Coupe du Monde en 2018 qui se déroulera en Russie. Ce vendredi à Alger, la rencontre entre la Libye et la Tunisie. Et demain, à Polo Kwame, en Afrique du Sud, les Bafana Bafana qui accueillent les Lions de la Teranga, l'Ouganda face au Congo à Kampala, à Limbé, le Cameroun contre la Zambie, les Super Eagles à Ouyo affronteront les Fennecs algériens, et puis les Requins Bleus du Cap-Vert à Praia contre le Burkina Faso, à Bamako, les Aigles du Mali contre les Panthères du Gabon, et puis à Marrakech, la Côte d'Ivoire en déplacement face au Maroc. On joue également cette nuit dans la zone Amérique du Sud. Idrissa, les résultats avec vous.
Dans le match au sommet entre le deuxième de la poule, l'Uruguay, et le troisième, l'Équateur, score final 2-1 pour l'Uruguay. À noter que l'Uruguay jouait sans Edinson Cavani, son buteur. Le Paraguay a été humilié à domicile par le Pérou 4-1. Le Venezuela a écrasé la Bolivie 5-0. Le Brésil a pris le meilleur sur son grand rival l'Argentine 3-0. Enfin, la Colombie de James face au Chili d'Arturo Vidal se sont séparés sur le score nul de 0-0.
Autre résultat nocturne, Idrissa, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
New Orleans 112, Milwaukee 106, Chicago 98, Miami 95, Golden State Warriors 125, Denver 101.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ah! Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pour la première fois hier, Barack Obama et son successeur Donald Trump étaient assis côte à côte dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Une scène qu'on ne pouvait pas s'imaginer il y a seulement 3 jours. Ils se sont efforcés de tourner la page des mois de campagne acrimonieuse et d'afficher une volonté de travailler pour le bien de la démocratie américaine. Le point avec Chérubin Dorsil.
Le tête-à-tête a duré environ 90 minutes. « Monsieur le Président, c'était un grand honneur d'être avec vous », a déclaré le milliardaire. Monsieur Trump s'est dit impatient de recevoir les conseils de celui qu'il avait qualifié durant la campagne de « président le plus ignorant de l'histoire ». De son côté, Monsieur Obama a évoqué une excellente conversation, ajoutant vouloir tout faire pour l'aider à réussir. Quelques jours avant le scrutin, Monsieur Obama, à Las Vegas, avait pourtant martelé que « nous ne pouvons pas nous permettre d'élire ce type. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Les deux hommes, à la fin de leur entretien, se sont serrés la main et n'ont répondu à aucune question des journalistes. Ils ont même plaisanté avant de se séparer. Le républicain prendra ses fonctions le 20 janvier.
Gabi, après la Maison-Blanche, Donald Trump, le président élu, s'est aussi rendu au Congrès. Et il lui faudra aussi réunifier un pays divisé.
Donald Trump a rencontré Paul Ryan, président de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Ce dernier avait annoncé en pleine campagne qu'il ne défendrait plus M. Trump, mais avait tout de même voté pour lui. Pour gouverner, Donald Trump aura besoin de l'appui du Congrès dominé par les républicains. Sous le choc, des milliers d'Américains se sont rassemblés dans une dizaine de villes, de New York à Los Angeles, en passant par Washington, pour dénoncer les vues racistes, sexistes et xénophobes, selon eux, de Donald Trump. À Los Angeles, des milliers de Californiens ont envahi un important axe routier et une effigie du nouveau président a été brûlée devant l'hôtel de ville. À New York, une foule s'est massée au pied de la Trump Tower, où est situé le domicile du président élu, en scandant « Trump à la poubelle ». Amère consolation pour Hillary Clinton. Elle a perdu l'élection, dont le résultat est décompté État par État, mais a obtenu au niveau national environ 230 000 voix de plus que son adversaire, selon des résultats provisoires publiés hier par le New York Times.
Mais comme on le sait, Gabi, c'est le nombre de grands électeurs qui détermine l'issue de l'élection. En tout état de cause, les Américains musulmans se préparent à vivre sous un nouveau président qui avait pendant sa campagne proposé d'interdire l'entrée aux musulmans étrangers à la suite de plusieurs attentats terroristes ici aux États-Unis. Les Américains musulmans sont inquiets, Salva Jawari.
Pour beaucoup de musulmans résidant à Dearborn, au Michigan, la victoire de Donald Trump est venue comme une surprise.
Trump a mené une campagne ancrée dans le racisme et la bigoterie. Il l'a utilisée pour avoir le soutien des électeurs et nous assistons maintenant au résultat. Et c'est une pensée effrayante.
Pour Abdallah Hamoud, nouvellement élu membre du Congrès, la nuit électorale était remplie d'émotions contradictoires.
C'est un vrai contraste. Pour la première fois dans l'histoire de Dearborn, on a élu un musulman arabo-américain de la première génération. Et à l'échelle de l'État, on soutient Trump et une présidence Trump.
Asha Noor est une activiste au centre communautaire arabe. Trump à la Maison-Blanche, c'est une image qui ne l'enchante pas.
Cela montre que le racisme et la bigoterie ont prévalu. Cela me montre que je ne vis pas dans une société post-raciale. Et cela me montre que certaines communautés ne sont pas les bienvenues dans cette société.
L'éditeur d'Arab American News, Osama Siblani, affirme que beaucoup d'Américains musulmans ont voté pour Hillary Clinton, mais n'étaient pas vraiment passionnés par sa candidature.
Ils sont très dégoûtés par l'élection. Je ne crois pas que les Américains musulmans et les Arabes américains aient un candidat favori. Ils votent probablement pour Clinton juste parce qu'ils sont contre Donald Trump, pas parce qu'ils pensent que Hillary Clinton est la meilleure candidate. Je suis républicain, ou j'étais républicain, et je crois que le parti républicain a vraiment endommagé sa connexion et les liens avec la communauté. Et il devrait travailler dur pour réparer cette fracture.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, plus de 13 000 étudiants des universités publiques et privées attirent l'attention sur leur sort, déclarant publiquement que leur vie au quotidien est très difficile. Reportage de notre correspondant en Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Ces étudiants de l'université de Bujumbura vivent dans une même chambre louée dans le quartier de Nyakabiga, proche. 3 sont boursiers du gouvernement, les autres non. Ils se disent frères au sens burundais du terme, partageant la même chambre et la même assiette une fois disponible. La plupart des étudiants louent des maisons dans des quartiers périphériques car leur bourse de 17 dollars le mois ne leur permet pas de vivre décemment. Cet étudiant de deuxième candidature en histoire nous explique que lier les deux bouts du mois est une gymnastique intenable.
La vie est difficile. Nous sommes en train de mener une vie vraiment difficile. Surtout concernant la vie, comment on peut se restaurer et puis la location de là où nous habitons, c'est vraiment compliqué avec la bourse que nous percevons de 30 000. Si on parvient à payer la maison, on ne peut pas se restaurer, on ne peut pas voir comment se déplacer vers le milieu ou apprendre les cours. C'est vraiment difficile. Ça arrive souvent que ça provoque les échecs.
Jadis, les étudiants de l'Université du Burundi avaient des bus de transport. Aujourd'hui, les anciennes habitudes ne sont pas de mise. Il faut aller dans les amphithéâtres à pied sous un soleil ardent ou une pluie diluvienne. La belle époque des années dernières a déjà changé. Témoignage d'un étudiant qui habite à Nyakabiga avec 5 autres étudiants.
La maison donc est louée à 80 000. Il nous est difficile de payer cette maison, mais aussi de manger. Étant donné que nos parents sont pauvres, il nous est aussi difficile de trouver quelque chose à manger. 30 000, c'est très difficile.
Toutes ces conditions draconiennes dont font face quotidiennement les dizaines de milliers d'étudiants des universités au Burundi ne facilitent pas l'assimilation des cours. Les résultats académiques ne sont pas brillants, comme l'affirme ce fonctionnaire chargé de la qualité des cours enseignés à l'université du Burundi. Docteur Valos Runagu.
Je pense que ce que disent les étudiants est tout à fait correct, une réalité, que les conditions dans lesquelles vivent et travaillent les étudiants impactent de façon directe leur performance sur le plan académique. Par le passé, il y avait un bon nombre d'étudiants qui étaient logés au niveau des homes universitaires et qui donc bénéficiaient des avantages sociaux quand même assez consistants, qui leur permettaient de travailler dans des conditions plus ou moins acceptables. Eh bien, je dois dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces avantages sociaux ont beaucoup diminué. C'est clair que les conditions de vie de plus en plus difficile dans lesquelles se trouvent nos étudiants impacte de façon directe leur performance sur le plan académique.
Aujourd'hui, les autorités gouvernementales ont opté pour un prêt bourse pour les futurs étudiants de l'Université du Burundi, excepté ceux qui reçoivent des bourses d'excellence. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires ont suspendu provisoirement leur grève hier en promettant de la reprendre en décembre si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ils exigent notamment une revalorisation des pensions des retraités et des veuves. Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien, fait état des menaces dont les syndicats font l'objet. Nani Talani l'adjoint à Abidjan.
Nous sommes en grève depuis le mardi pour 72 heures pour revendiquer 4 points. Le premier point, c'est la question de la réforme de la retraite, c'est le point saillant. Deuxième point, c'est la question des arriérés, des salaires non payés à ce jour depuis 2009. Et puis, un troisième point, c'est l'intégration des agents journaliers du secteur public à la fonction publique. Troisièmement, la question des libertés syndicales en Côte d'Ivoire.
Le point fondamental, voilà. C'est la retraite.
Tout à fait. Et sur ce point-là, le gouvernement a pris une ordonnance en 2012 dont les effets ont commencé à être perceptibles depuis 2015-2016. Cette réforme prolonge le temps de travail. Désormais, la retraite, c'est à partir de 60 ans pour les grades les plus bas et 65 ans pour les grades les plus élevés. Le gouvernement a augmenté la cotisation des fonctionnaires qui passe de 6 à 8,33%, mais malheureusement a réduit les pensions de retraite de 30 à 50% selon les grades. Du grade le plus bas jusqu'à l'université, les réductions vont jusqu'à 50%. Quand on prend un professeur d'université titulaire qui avait 950 000 francs CFA dans l'ancien système, aujourd'hui il est à 450 000 francs comme pension de retraite. Nous ne trouvons ça inacceptable. Ensuite, les pensions de réversion de la veuve ont été rendues difficiles pour leur perception. Le gouvernement soumet donc les veuves à une condition d'âge. C'est-à-dire que lorsque vous perdez votre époux retraité, la veuve doit avoir l'âge de l'époux retraité, son âge statutaire de départ à la retraite, avant de percevoir cette pension de retraite. Ce qui fait que de nombreuses veuves avec des enfants sous les bras sont aujourd'hui abandonnées à la rue à cause de l'application de cette réforme-là. Ensuite, le capital décès qui était réservé aux fonctionnaires qui n'avaient pas atteint l'âge de la retraite et qui décédaient, qu'on remettait à sa famille, a été supprimé purement et simplement. En plus de cela, le taux d'annuité qui permettait de faire le calcul de la pension a été réduit de 2 à 1,75. Conséquence, les pensions de retraite aujourd'hui sont des pensions mouroirs qui ne sont plus à la hauteur du niveau de vie de la Côte d'Ivoire.
Que comptez-vous faire si vos revendications n'étaient pas satisfaites?
Si nos revendications ne sont pas satisfaites, comme c'est le cas au troisième jour de notre grève, parce qu'au lieu de nous appeler à la discussion, c'est plutôt des menaces que nous recevons de la part du gouvernement, des injonctions que nous recevons de la part du gouvernement, alors que nous sommes ouverts à la discussion. Et la grève prend fin aujourd'hui même, jeudi. Si rien n'est fait, nous allons relancer le mouvement, le durcir, le rallonger dans le temps, et cela d'ici le début du mois de décembre. Nous le relançons pour une semaine renouvelable.
C'était Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Nouvelle directive de l'Organisation mondiale de la santé en matière de santé prénatale. L'objectif visé par l'OMS, améliorer les chances de survie des futures mères et de leurs nourrissons. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint à Genève le docteur Maurice Botchagou du département de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS.
Les praticiens ont constaté que les directives qui étaient jusque-là utilisées étaient quelque part associées avec une mortalité des nouveau-nés un peu plus élevée que prévue. C'est des nouvelles évidences qui sont apparues dans un certain nombre de pays qui mettaient en pratique les directives de l'OMS telles que proposées jusque-là, c'est-à-dire avoir au moins 4 consultations prénatales pour chaque grossesse sans complication. Et sur cette base-là, il a fallu, n'est-ce pas, revoir la façon de prester ces services.
Quelles sont les principales de la cinquantaine de recommandations publiées par l'OMS?
D'abord, la philosophie qui est derrière, c'est non seulement pouvoir détecter les complications qui peuvent survenir pendant la grossesse en vue de pouvoir réduire les décès, surtout chez les enfants qui étaient observés dans un certain nombre de pays, mais aussi aller pour une expérience positive de la grossesse en mettant un accent particulier sur la qualité des soins. Deuxième chose, on a constaté que plus on a des contacts entre les praticiens et les femmes enceintes, donc pendant la grossesse, plus il y avait des chances de détecter tout ce qui peut survenir comme complication pendant la grossesse et donc prévenir les cas graves. Il s'agit d'avoir au moins 8 contacts pendant la grossesse et ceci donc par opposition aux 4 visites qui étaient connues de façon classique. Le troisième point le plus important qui est apparu, c'est que l'utilisation de l'échographie au début de la grossesse permet, n'est-ce pas, aux praticiens de dater l'âge de la grossesse et de pouvoir donc intervenir à tout moment. Parfois, il peut s'agir d'une grossesse multiple, il peut s'agir de malformations qui sont détectées par ces nouvelles technologies. Et ceci donc permet d'avoir de meilleurs résultats par rapport à la fin de la grossesse, à l'accouchement et à l'état des nouveau-nés.
Le docteur Maurice Botchagou du département de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS. Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.